Donc c'est presque une question philosophique que je voudrais aborder. Et quant à la question de savoir, au fond, il y a cette grande distinction qui est faite entre la prescription et la description, d'accord ? Et l'expert, c'est un scientifique, il analyse certains domaines, il a des connaissances sur un domaine. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il décrit un domaine, et à partir de la description d'un domaine, quand on prend une décision publique, il faut prescrire quelque chose, il faut dire il faut faire ceci, faire cela. Mais comment est-ce que l'on va déduire du prescriptif de quelque chose qui est seulement descriptif ? D'accord ? Alors ça, c'est un problème assez ancien, et David Hume l'abordait déjà dans son traité sur la nature humaine. Et il parle de ce problème du passage de l'être au devoir-être, c'est-à-dire que si je donc décris des faits, si j'étudie des faits, ça ne me dit pas ce qui doit être, ce qu'il est juste de faire, ce qu'il est bon de faire, et ainsi de suite. Or, l'expertise publique, par définition, vise à prescrire l'implémentation de certaines et à mettre en œuvre certaines politiques publiques en se fondant sur des données empiriques. Et donc, il semble difficile de voir comment on peut faire se combiner ce niveau de description, ce niveau d'étude de l'être et le niveau plus prescriptif de ce qui doit être. Alors il y a certains auteurs postmodernes et même contemporains, alors là c'est essentiellement des philosophes, Michel Foucault, Bruno Latour ou plus récemment Frédéric Lordon, qui ont insisté sur le fait que dans les sciences, il y avait toujours des présupposés qui étaient comme des axiomes arbitrairement choisis et qui relevaient en quelque sorte du devoir-être. D'accord ? Et donc, il y avait toujours un peu de morale ou d'arbitraire, ou en tout cas de valeur, et non pas seulement des faits, en matière de en science, et que par conséquent, la science, ce n'était pas seulement de la description, c'était aussi de la prescription. Et même sans forcément s'en tenir à des auteurs plutôt postmodernes, mais Hilary Putnam a soutenu la même idée, c'est-à-dire qu'il critique la distinction entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs. Il dit, quand vous faites de la science, vous ne faites pas que parler des faits parce que vous vous reposez sur certains choix méthodologiques, etc., qui sont des valeurs. Et moi, ce que je voudrais faire ici, donc il y a eu cette démystification de la nette séparation entre le pan descriptif et le pan prescriptif. Et je voudrais me poser la question de comment est-ce que l'on peut arriver à retracer une frontière nette et à délimiter quelle doit être la fonction de l'expert dans l'information des politiques publiques. Et la solution que je propose, c'est une solution un peu en quelque sorte axiomatique, c'est-à-dire que je suggère qu'il faut distinguer entre un niveau qui est axiomatique ou un niveau qui est... auquel on va poser certains principes, on pose des valeurs, etc. Et puis, étant donné ces principes que l'on pose, étant donné par ailleurs un certain nombre de données empiriques dont on dispose, il s'ensuit inférentiellement certaines choses. Et donc l'idée, comme vous l'aurez compris, c'est qu'on va demander aux gens quelles sont les valeurs, quelles sont les choses auxquelles vous tenez. Et ça, on est purement dans l'ordre prescriptif, d'accord ? Et ensuite, l'expert, son rôle, ça va être, étant donné les valeurs qui sont celles des gens, et étant donné par ailleurs ce que l'on connaît d'un domaine précis, il s'ensuit qu'il est désirable d'implémenter telle mesure plutôt que telle autre. Et je vais illustrer cela par un cas que... Moi, je ne travaille pas sur ce sujet-là, mais je travaille sur les expériences hallucinogènes dans ma thèse. Et donc, je me suis intéressé au statut des drogues dans nos sociétés. Et je trouve que c'est un excellent exemple pour illustrer ce dont je parle ici, parce que si l'on compare la perception populaire des drogues, c'est-à-dire si je donne aux gens un certain nombre de drogues, donc alcool, LSD, ecstasy, etc., et que je demande selon vous quelle est votre intuition de dangerosité de chacune de ces drogues, on va avoir un résultat complètement différent du type de résultat que vous avez. Donc ça a apparu dans le Lancet, c'est tout à fait, c'est un neuropsychopharmacologue qui travaille à Imperial. Alors les modèles sont un peu débattus parce qu'on va choisir tel ou tel facteur pour construire le modèle de dangerosité d'une substance, de nocivité d'une substance, donc il peut y avoir des choix un peu différents, mais en gros, tous les experts dans le domaine sont d'accord, Et donc, bon, on ne voit pas trop le classement, mais vous avez en bleu la dangerosité pour les utilisateurs et en rouge la dangerosité pour l'entourage des utilisateurs. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez par exemple les champignons hallucinogènes, qui sont quasiment non nocifs, l'LSD, l'ecstasy, et puis quand vous remontez, vous trouvez le tabac, la cocaïne, et puis tout en haut, l'ecstasy, l'alcool. Et donc on voit que la dangerosité des drogues pour l'expert neuropsychopharmacologue, l'expert des drogues, et celui de la perception populaire est complètement différent. Alors, vous avez certaines substances, vous voyez, comme le cannabis, où quand même, ça se trouve ici, bon, c'est moins anodin que, je ne sais pas moi, le LSD. Et les psychédéliques en particulier, c'est une catégorie. Si on songe au LSD, l'image populaire que les gens en ont, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, les gens se mettent à sauter par les fenêtres, etc. Bon, et en fait, quand vous faites une revue de la littérature, ça ne développe pas des psychoses. Ça, donc là, c'est des revues de la littérature récentes. Il y a eu des méta-analyses, etc., qui ont été faites. Et ça ne produit rien de tout cela. Et au contraire, ça a des effets thérapeutiques quant à la dépression et ainsi de suite. Alors voilà un peu ce que disent les experts. Mais qu'est-ce que ces données ? Donc là, on parle de description, on parle de faits. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données pour ensuite prescrire certaines politiques publiques ? Ce que je veux suggérer, donc, c'est que selon l'axiome que l'on pose, donc on a d'un côté les données, et puis de l'autre, on a les axiomes. Selon l'axiome que l'on pose, on peut imaginer différentes politiques publiques. Par exemple, on peut considérer qu'il y a un seuil de dangerosité acceptable. Donc on pourrait discuter tous ensemble en société et puis faire un référendum et décider que le seuil de dangerosité d'acceptabilité, il est là, par exemple. Et puis tout ce qui est plus dangereux que cela, on va prohiber. Tout ce qui est en dessous, on va légaliser. Et donc ça, c'est une question. Donc la prescription, l'implémentation de la politique publique, elle va dépendre des connaissances empiriques que l'on a d'un côté et par ailleurs d'un choix axiomatique que l'on fait, par exemple, par référendum. Un autre type d'élément, et d'ailleurs... Ça vaut pour les substances, mais il y a également David Nutt avait fait le calcul de comparaison de la dangerosité des accidents à cheval et des accidents de prise d'ecstasy, et le rapport était de 1 à 10 000. C'est-à-dire que vous avez 10 000 fois plus de risques d'avoir un accident grave en faisant du cheval. Donc, si le seuil d'acceptabilité est quelque part, alors il y a tout un tas de substances qui vont être au-dessus et également de pratiques. Bon, vous pouvez aussi considérer que nuire à soi, c'est moins grave que nuire à autrui, et donc établir le seuil en fonction de cela. Vous pouvez aussi dire que peut-être l'alcool est très dangereux, mais après tout, ça fait partie de notre culture, et donc on va autoriser l'alcool, bien que ce soit très dangereux. On peut aussi prendre en compte des facteurs vraiment fortement extrasanitaires, du type, donc il y a tout un tas d'études qui montrent que la prise de psychédéliques conduit à des pensées, à avoir des idées un peu très singulières, très idiosyncratiques, etc. Également, on voit quand on fait des big data que les sociétés qui consommaient des psychédéliques étaient des sociétés avec très faible stratification sociale, peu d'État. Alors on pourrait dire, mais on a envie d'avoir un État fort et on a envie de ne pas avoir un éclatement communautaire des sociétés, donc on va interdire les psychédéliques, du fait de ce principe. Alors, donc, vous voyez un peu l'idée de bien séparer l'ordre de la description et l'ordre de la prescription. Et alors, un dernier point que je voudrais aborder pour terminer, c'est, mais au fond, les axiomes que l'on pose, les axiomes que l'on se donne, et à partir desquels on va inférer des politiques publiques en combinant aux données empiriques dont on dispose, est-ce que ce sont des préférences qu'ont les gens dans leur cerveau, ou est-ce que c'est plus quelque chose que la personne va décider de manière contractuelle ou en s'exprimant à un moment donné ? Et notamment, il y a un certain nombre de travaux en psychologie, et là, Norbert Schwartz a beaucoup travaillé là-dessus, il montre à quel point, alors lui, il défend une thèse particulièrement radicale en ce sens, à quel point on a peu, en vérité, d'attitudes propositionnelles dans notre esprit, stockées dans notre esprit. donc par exemple des préférences, et à quel point ces attitudes propositionnelles, en réalité, elles vont être très influencées par la manière dont la question est posée. Bon, il y a tous les travaux sur le priming, etc. Mais il a quand même des manips très élégantes où il change, par exemple, la clarté de la police et il obtient des résultats différents de réponses des gens en fonction simplement de la clarté de la police. Et Nick Chater est allé encore plus loin en disant qu'au fond, l'esprit était plat, il défend cette idée-là, c'est-à-dire que les gens n'ont pas véritablement de préférence ancrée, enregistrée dans leur esprit. Et bon, ce genre de données psychologiques ne pose pas problème à la proposition que je fais, puisque à mon sens, les axiomes qui doivent servir de base au choix d'une politique publique ne sont pas, encore une fois, des préférences qu'ont les gens dans leur esprit continuellement. Il ne faut pas concevoir cela comme ça, mais c'est plus à un moment donné, on fait un référendum, on organise un vote pour choisir telle préférence, tel axiome plutôt que tel autre. Et donc, ma dernière diapo, c'est sur la place de l'expertise en démocratie. Souvent, les gens disent, mais l'expertise, donner du pouvoir aux experts, c'est renier la démocratie. Mais selon mon modèle, où on distinguerait donc entre l'ordre des axiomes et puis, d'un autre côté, l'ordre des données empiriques, et en combinant les deux, on arrive à certaines prises de décision publiques, arrive à bien faire, en quelque sorte, la division du travail. Et il y aurait le travail de poser des axiomes qui serait un travail de... Donc c'est tout à fait démocratique, c'est-à-dire on demande aux gens, par des référendums, etc., quels sont vos axiomes. Donc la partie axiomatique, elle est réalisée par le peuple, donc comme on fait aujourd'hui en démocratie. Et puis il y aurait une partie qui serait de dire, étant donné les axiomes qui sont partagés par la majorité des gens, et étant donné par ailleurs les données dont on dispose, alors il convient d'implémenter telle politique publique, et ça, ce serait le rôle des experts. Donc ça permettrait d'avoir une division claire du travail et de ne pas renier l'importance de la démocratie donc pour définir les axiomes. Et donc je termine. J'ai terminé. Tu t'en vas tout de suite, oui?